1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Dans le cadre du 500e anniversaire de la Réforme, qui nous renvoie donc au XVIe siècle, nous avons fait le choix aujourd'hui d'oser un parallèle avec une autre période historique qui a touché plus particulièrement la France, la période où sont apparus les Camisards, huguenots de la région des Cévennes. La révolte des Camisards est assez connue, elle se déroula deux siècles après la Réforme, initiée par Luther, au XVIIIe siècle. Nous allons donc aujourd'hui mettre en écho ces deux événements en compagnie de Jean-Pierre Michaud, chercheur passionné de l'histoire camisarde depuis près de 10 ans, membre de la communauté protestante d'Annecy. Jean-Pierre Michaud, bonjour.
Bonjour.
En fait, cela fait très longtemps que vous vous intéressez à ce sujet des camisards, bien plus que 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout d'abord dans quel contexte a eu lieu la révolte camisarde ?
Eh bien, c'est un contexte très précis. Cette révolte des camisards, appelée aussi guerre des Cévennes, s'est produite dans les Cévennes et le Bas-Languedoc entre 1702 et 1710, pour faire rapide, on va continuer un peu après. Donc c'est une révolte qui a lieu dans la dernière partie du règne de Louis XIV et elle va mettre à feu et à sang cette région et poser beaucoup de problèmes au pouvoir royal.
Est-ce que l'on peut se permettre de faire ce rapprochement entre réforme et révolte camisard alors que ce sont des événements très différents au final ?
Eh bien, a priori, on pourrait penser que non, car les deux événements sont de nature et d'envergure très différentes. On peut facilement relever et noter les différences nombreuses qu'il y a entre les deux événements. Mais je pense qu'il faut aller au-delà, justement, de ces différences, et on retrouve alors là assez facilement des fondements communs dans la Réforme et aussi dans le creuset du protestantisme français. Il y a un lien entre ces deux événements.
Alors nous allons parler dans un premier temps des différences et puis ensuite nous essaierons de découvrir ce qu'il y a de commun et dans quelle mesure peut-être cela peut nous parler encore aujourd'hui, Jean-Pierre Michaud. Tout d'abord, les différences.
Bien, elles sont nombreuses. Tout d'abord, une différence dans le domaine de l'espace. La réforme concerne essentiellement, disons, l'Europe complètement, alors que la révolte des Camisards concerne une partie d'une province, Languedoc, une petite partie de cette province seulement. Différence aussi politique. En effet, la réforme s'appuie sur des forces politiques, par exemple Luther par rapport à la Saxe, et des forces nationales, des représentations nationales, alors que la révolte camisarde est une affaire intérieure française et provinciale qui est réprimée par l'intendant du roi du Languedoc, Baville.
Ensuite, il y a une dimension évidemment temporelle.
Oui. On peut évaluer approximativement de l'ordre de 80 années pour le mouvement de la réforme et 8 ans à peine pour la révolte des Camisards. Aussi, différence très importante, la réforme finalement a un caractère officieux dans des pays comme l'Allemagne, par exemple la Hollande, l'Angleterre, etc. Donc des circonstances qui la placent du côté du pouvoir établi, alors que la révolte des Camisards est une révolte clandestine qui est combattue et qui est férocement réprimée. Et puis, je crois aussi, et c'est important, il y a eu des différences d'ordre religieux quand même. La réforme, globalement, accorde bien sûr une grande importance aux évangiles, aux lettres de Paul en particulier, et aux personnages, à la personne de Jésus. Alors que les camisards se tournent plus volontiers, finalement, vers l'Ancien Testament, avec cette idée de l'exode du peuple juif, avec cette référence à la déportation à Babylone, avec cette référence continuelle au Dieu des armées.
Alors, un dernier point où l'on évoque aussi des différences, c'est sur le plan de l'Église.
Oui, alors là, les différences sont importantes. En effet, la réforme a mis en place des églises, des communautés très structurées. On peut penser en particulier, entre autres, à Luther, mais aussi à Calvin pour la France. Alors que l'expérience camisarde se passe dans la clandestinité et surtout, il n'y a plus de pasteur, il n'y a plus de chef spirituel, de responsable spirituel. Les communautés sont seules et c'est une autre organisation de notre vie commune qui se met en place et qui est très différente de ce que la réforme avait imaginé.
Ce sont donc les circonstances qui, évidemment, ont conduit à cela. Jean-Pierre Michaud, parlons maintenant du patrimoine qui est commun à la réforme et à la révolte camisard, parce qu'il y a là aussi des aspects qui les réunissent l'un l'autre et qui justifient, en l'occurrence, cet entretien que nous avons aujourd'hui.
Bien évidemment, la révolte camisard s'inscrit aussi dans la tradition de la réforme, c'est-à-dire, aspect principal, la Bible est au centre de la pensée, est au centre de la foi, au centre de la spiritualité. Et Luther est l'un de ceux qui a mis en exergue le fait que chaque individu, chaque personne doit avoir un rapport direct avec la Bible. Et c'est exactement ce qui se passe pour les camisards. Leur lecture de la Bible, qu'ils lisent en français d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'ils sont en fait de tradition linguistique provençale, la Bible, ils la lisent et elle correspond selon eux exactement à ce qu'ils éprouvent et ce qu'ils pensent. Ils y retrouvent ce qu'ils veulent y retrouver. Et alors c'est donc cette tradition de lecture personnelle, diverse, peut-être contradictoire, bien évidemment, que vont faire ce qu'on appelle les prédicants, c'est-à-dire ces laïcs qui remplacent les pasteurs au début, et ce qu'on appellera ensuite les prophètes chez les camisards, avec, on va le voir, des dérives, du moins ce que certains considèrent comme des dérives, assez importantes.
Alors Jean-Pierre Michaud, ce que vous soulignez aussi, c'est qu'il y a un élément essentiel qui est commun aussi bien à la réforme qu'à la révolte des camisards, c'est le fait que chaque croyant est appelé à être libre dans son approche du vécu religieux et de la Bible.
C'est exactement cela. C'est ce que Luther en particulier a fait vivre et a mis en valeur, la liberté de chaque personne, de chaque individu, de comprendre, d'interpréter, de peser de façon différente, de façon libre, le texte biblique sans avoir recours à une tradition ou une puissance qui l'impose. Et c'est ce que les camisards, par la force des choses, puisqu'il n'y a plus de guide spirituel attitré comme un pasteur et que les conseils des anciens sont plus ou moins présents ou absents aussi lors de ces cultes qui ont lieu dans la clandestinité, eh bien, ils retrouvent spontanément cette liberté. Il y a des jeunes, il y a des gens âgés qui prennent la parole, qui disent et qui commentent la Bible en toute liberté. Ce qui d'ailleurs va fâcher par la suite, bien sûr, les tenants d'un rigorisme religieux.
Ce que vous dites là, Jean-Pierre Michaud, me semble rejoindre la perspective aussi du culte et la dimension du sacerdoce universel, comme il en est question très fréquemment chez les protestants. Expliquez-nous de quoi il s'agit là.
C'est en effet un élément fondateur, me semble-t-il, du protestantisme. C'est Luther qui, le premier, l'a mis en valeur, c'est-à-dire que chaque personne, chaque chrétien a toute liberté pour comprendre, appréhender et porter un message qu'il trouve dans la Bible. Il ne s'agit pas d'une hiérarchie ecclésiastique qui seule est autorisée à parler et à dire ce qu'il faut penser. C'est la liberté donnée à chaque personne, à chaque chrétien, de le faire. Et ceci, on va le retrouver exactement dans le cas des camisards. On peut dire que c'est sans doute ce qui a permis à ces communautés, je répète, clandestines, tout cela se passait non pas dans des églises ou des temples, mais se passait dans la nature, dans des cadres parfois très sauvages. Chacun porte cette liberté de porter une parole telle qu'il aperçoit. Et les principaux chefs camisards, les plus célèbres en tout cas, Jean Cavalier ou bien Roland, nom de Pierre Laporte, vont eux aussi constamment porter des messages bibliques en toute liberté.
Il y a un élément lors de nos échanges, Jean-Pierre Michaud, que vous avez souligné au travers du chant des psaumes, quelque chose qui personnellement m'échappait, mais le fait que ça, pour vous, c'est une des marques de fabrique du protestantisme en France.
Je le pense vraiment et profondément. En effet, d'abord historiquement, on sait que justement le chant des psaumes, qui était issu des magnifiques psaumes du XVIe siècle et des paroles de ces psaumes, dans les versions par exemple de Théodore de Bèze, était interdit par le pouvoir royal au début du XVIIe siècle. C'était un objet de condamnation, si vous voulez. Le chant des psaumes a marqué la tradition protestante française et pour les camisards, c'est évident. Et on en a un exemple extraordinaire, c'est le psaume 68, dit psaume des batailles, qui était devenu véritablement le chant de guerre de ces révoltés, au point que parfois ça n'avait plus rien à voir avec un psaume, mais c'était plutôt une espèce de marche militaire guerrière, violente et virulente.
Ça me faisait penser, moi, à un hymne national, mais je n'en dis pas plus.
Oui, ça l'est.
Alors, ce que vous soulignez encore, c'est que aussi bien dans la période de la réforme par rapport à Luther qu'au niveau de la révolte camisarde, il y a une dimension de refus très forte.
Le refus, je crois, s'inscrit très nettement dans l'attitude en particulier de Luther par rapport à l'empereur Charles Quint, par rapport au pape. Luther a refusé et donc a provoqué ainsi une rupture. Et bien de la même façon, à leur niveau et dans un domaine différent, ce qu'on va appeler les camisards procèdent à un refus. Ils refusent la toute-puissance religieuse à travers le pouvoir royal qui leur interdit de pratiquer leur religion traditionnelle, le protestantisme, comme ils le voudraient. Donc c'est la même attitude de refus et c'est la même attitude de rupture. Mais à un niveau, bien sûr, local, je rappelle que cela se situe à peine dans une partie de la province du Languedoc.
Pour rassembler tous ces éléments, Jean-Pierre Michaud, qu'est-ce que vous souhaiteriez exprimer en guise de conclusion ou pour nous amener à peut-être nous plonger dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui sur le plan de notre vécu religieux, je vais dire les choses ainsi.
On peut penser justement que ce qu'il y a de commun dans tout ce que nous venons de dire, c'est l'existence et la diversité dans la réforme, dans le protestantisme, des églises, des mouvements, des communautés qui sont issues justement de cette réforme. Là, c'est un trait caractéristique. Cela nous amène à nous interroger sur la place des camisards dans le protestantisme français, de la révolte des camisards dans le protestantisme français. Cela n'a pas toujours été facile. Ils ont été longtemps objet de défiance, de mépris, ceux qu'on appelait les gueux, qui osaient se révolter contre le pouvoir royal, qui osaient se dispenser de pasteurs et qui osaient prendre les armes. Mais le temps aidant, les choses étant passées, le sens étant maintenant plus clair, cette révolte camisarde trouve une place aujourd'hui d'intégration, une place apaisée dans la mémoire collective du protestantisme français. En fait, leur révolte, quand on y réfléchit bien, a signifié un refus de l'oppression, qu'elle soit politique, c'était le roi, ou religieuse, la toute-puissance de l'Église apostolique, catholique et romaine. En fait, et ils l'ont dit et renouvelé, ils exigeaient la liberté de conscience, dont ils éprouvaient le manque dans leur vie quotidienne. Donc la liberté de penser était au cœur de leur combat. Et on peut penser qu'aujourd'hui, c'est toujours actuel.
En quoi ça reste actuel tout cela ?
Alors à mon avis, parmi d'autres, je pense que cela reste actuel car cela suppose une acceptation, un accueil de la diversité des opinions, de la diversité des croyances ou des non-croyances, acceptation de la divergence et du droit à penser autrement ou croire autrement. Et c'est aussi, c'est peut-être ce qui est le plus riche comme effet actuel de cette révolte, c'est d'accepter une confrontation à d'autres manières de penser et de croire, ou de ne pas croire.
Eh bien, nous voyons qu'au fil des siècles, finalement, ce sont les mêmes questions qui se posent et les mêmes luttes qui doivent se manifester pour gagner effectivement cette liberté-là. Merci beaucoup, Jean-Pierre Michaud. Merci de nous avoir présenté ce parallèle donc entre la réforme et la révolte camisarde.
Je vous remercie. Ceci peut inciter peut-être nos auditeurs à s'intéresser à nouveau à cette période passée.
Et passionnante. Merci encore.
Merci à vous.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions, 500 ans de réforme, protestants 2017, vivre la fraternité.